Etur Jesus Christus.
Les réactions se multiplient après le coup de fil d'hier entre les présidents russes et américains. Kiev entend bien faire entendre sa voix, tout comme les Européens, mais ces derniers sont sommés de payer et de s'engager davantage par Washington. Attaque à la voiture Bélier à Munich ce matin, ce qui pourrait bien être un attentat terroriste, intervient à la veille du sommet sur la sécurité de Munich et à 10 jours surtout des législatives, alors que l'extrême droite a le vent en poupe. L'Union africaine, très discrète depuis la chute de Goma aux mains du M23, ne pourra pas faire autrement que d'aborder la guerre dans l'est de la RDC lors de son sommet ce week-end. L'UA doit assumer ses responsabilités, c'est ce que nous expliquera un chercheur de l'UQAM. 2 mois après le passage du cyclone Chido, l'île française de Mayotte se remet lentement de ses peines. Le Parlement français a voté une loi pour aider à la reconstruction en urgence, comme nous le confirmera le Secours catholique.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. La conversation hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine a éclipsé l'un des protagonistes majeurs de la guerre en cours, l'Ukraine. Le Kremlin vient d'assurer toutefois qu'elle participera au pourparlers de paix d'une manière ou d'une autre. Mais Kiev veut avant toute chose préparer un plan avec les États-Unis pour arrêter Poutine avant de lancer des négociations. Déclaration du président ukrainien qui regrette que son homologue américain ait d'abord parlé au maître du Kremlin. Volodymyr Zelensky semble vouloir se persuader que la priorité de Donald Trump reste l'Ukraine. Il a également estimé que les Européens devaient s'asseoir eux aussi autour de la table des négociations. Des Européens qui sont bien de cet avis et qui l'ont dit au secrétaire américain à la Défense lors d'une réunion de l'OTAN ce matin à Bruxelles. Si la question à l'ordre du jour était bien les dépenses de défense, c'est bien celle des négociations sur le futur de l'Ukraine qui a occupé les débats. À Bruxelles, Pierre Benazet.
Le nouveau ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a martelé ce jeudi matin que les Européens devaient payer beaucoup plus pour leur défense, que l'objectif fixé par Donald Trump était le bon, à 5% du PIB. Les États-Unis ne veulent plus payer pour les Européens et après plusieurs décennies à essayer de les convaincre, Washington tape désormais du poing sur la table. C'est un électrochoc pour beaucoup, car sur 23 alliés de l'OTAN qui font aussi partie de l'UE, 8, c'est-à-dire tout de même plus d'un tiers, sont loin en dessous de l'objectif minimal de 2014, à savoir 2%, comme Espagne ou Italie. Pour les autres, Polonais, Baltes, Scandinaves surtout, l'augmentation des dépenses a commencé depuis longtemps et certains affirment, comme les Français, que c'est même une bonne nouvelle qui va réveiller les Européens. Pour eux, rien de ce qui concerne l'Europe ou l'Ukraine ne doit être décidé sans l'Europe ou l'Ukraine. Le seul moyen dont ils disposent pour peser dans les négociations est de montrer qu'ils ont financé la plus grosse partie du soutien à l'Ukraine et qu'ils assureront les éventuelles garanties de sécurité. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
Moscou a au moins un point commun avec Washington. Les Russes considèrent les Américains comme les seuls interlocuteurs crédibles et réciproquement. Le Kremlin veut assez rapidement en effet une rencontre entre le président russe et son homologue américain pour évoquer, au-delà de l'Ukraine, la sécurité en Europe. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Autour de ce conflit en Ukraine règne la plus grande discrétion quant aux pertes humaines. La Croix-Rouge internationale tente, elle, de retrouver la trace de pas moins de 50 000 personnes, en grande majorité des soldats ayant disparu depuis près de 3 ans. Et ce nombre ne fait qu'augmenter, a annoncé aujourd'hui le CICR. L'Ukraine, il en sera sans doute question à la conférence sur la sécurité de Munich, même si le gouvernement allemand a assuré hier que rien ne devrait se passer du point de vue diplomatique. En attendant, la principale ville de Bavière a connu aujourd'hui une attaque à la voiture Bélier. 28 personnes ont été blessées. Selon la police, le conducteur est un réfugié afghan, possiblement radicalisé. Et cette attaque intervient 3 semaines après celle d'Aschaffenburg et à 10 jours des élections législatives. À Berlin, Delphine Arboulier.
Il était 10h30 ce jeudi quand une voiture Bélier a foncé dans un défilé syndical dans le centre de Munich. Au moins 28 personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement. L'assaillant a pu être immédiatement interpellé. Il s'agit d'un Afghan de 24 ans, connu des services de police pour possession de drogue et vol. Selon des médias nationaux, il aurait posté un message à contenu islamiste sur les médias sociaux, mais cette information n'a pas été confirmée par les autorités. Cette attaque intervient dans un contexte très lourd en Allemagne. Il y a 3 semaines déjà, un autre réfugié afghan avait poignardé et tué 2 personnes à Aschaffenburg. Fin décembre, un Saoudien avait fait 6 morts en fonçant en voiture sur un marché de Noël à Magdebourg. À 10 jours des élections législatives, la lutte contre l'immigration illégale est déjà centrale dans la campagne électorale. Mais elle devrait sans nul doute prendre encore plus de poids. La droite classique critique vivement la politique du gouvernement d'Olaf Scholz et prône depuis 2 semaines un durcissement drastique de la politique migratoire, une demande soutenue par l'extrême droite. Cette nouvelle attaque pourrait donc avoir un impact sur les électeurs. Un tiers se dit encore indécis. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Le cessez-le-feu entre Hamas et Israël devrait tenir malgré les alertes de ces derniers jours. L'Égypte et le Qatar, principaux médiateurs, sont parvenus à surmonter les obstacles selon les médias officiels égyptiens. Mais la prudence est de mise. L'armée israélienne affirme avoir détruit il y a peu un lanceur de roquettes après avoir détecté un tir en provenance de Gaza. En attendant, pour la population civile palestinienne, rien n'est résolu, surtout pas la question de la faim. La catastrophe humanitaire se poursuit dans la bande de Gaza, a affirmé aujourd'hui l'ONU, qui réclame un accès sans entrave à l'aide humanitaire. La guerre au Kivu. Le Parlement européen demande à l'Union européenne de suspendre le partenariat sur les matières premières avec le Rwanda au nom de son soutien à la rébellion du M23. Ce conflit dans l'est de la République démocratique du Congo devrait être aussi abordé lors du 38e sommet de l'Union africaine. Il est prévu ce week-end à Addis Abeba. Et l'Union africaine, sur ce sujet, se montre depuis très discrète. Sédic Abba, chercheur associé au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique de l'Université du Québec à Montréal, invite l'Union africaine à prendre ses responsabilités face à ce conflit.
Compte tenu du risque d'embrasement qu'il y a aujourd'hui, on a l'impression que l'Union africaine a délégué un peu la gestion de cette crise à la CEAC et à la SADC. Il faut qu'elle-même reprenne le dossier, qu'elle puisse convoquer le Conseil de sécurité au niveau des chefs d'État. Nous avons une formidable occasion, celle du sommet qui va avoir lieu le week-end, pour qu'elle organise ce que les autres pays n'ont pas réussi à faire, mettre dans une salle le président Kagame et le président Félix Tshisekedi pour qu'ils discutent de la solution et qu'ils commencent d'abord par obtenir un cessez-le-feu et porter assistance aux populations aujourd'hui qui sont dans la détresse. La France a fait une médiation qui n'a pas marché puisque la France voulait réunir lors du sommet de l'intelligence artificielle à Paris les 2 chefs d'État. Félix Tshisekedi n'est pas venu, le président Kagame est venu. Mais l'Union africaine peut réunir, convaincre les 2 chefs d'État de venir à ce sommet d'Addis Abeba, de pouvoir avancer sur l'agenda de la paix pour que les choses puissent être réglées entre Africains, par les Africains. Je pense que ce serait un succès diplomatique si l'Union africaine obtenait ce face-à-face entre Kagame et Félix Tshisekedi.
Des propos recueillis par Myriam Sandounou. En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye est dans un état critique selon un de ses avocats. Il mène depuis lundi une grève de la faim après des mois de détention dans son pays consécutif à son enlèvement au Kenya. Cet homme de 68 ans encourt la peine capitale pour trahison. Son épouse, directrice de l'ONU-SIDA, dénonce un simulacre de justice. 2 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, le Parlement français a définitivement adopté ce jeudi le projet de loi de reconstruction de l'archipel, une loi d'urgence qui prévoit principalement des assouplissements aux règles d'urbanisme. Un autre texte centré sur le développement économique, éducatif et social du département d'outre-mer est à l'étude. Dans l'archipel, où l'approvisionnement de l'eau et de la nourriture reste compliqué dans certaines zones, le défi de reconstruire reste immense. C'est ce que nous explique Marc Bulto, le délégué à Mayotte du Secours catholique Caritas France.
On reste aussi en situation de post-urgence pour tout ce qui est reconstruction. Vous le savez sûrement, mais il y a des mesures qui ont été prises afin de tenter d'éviter la reconstruction de l'habitat informel. Bon, c'est totalement vain, hein, parce que les gens, ils ont besoin d'un toit et donc ils se débrouillent. Donc ils se débrouillent avec de la tôle de récup qui sont trouées et autres, mais ils se débrouillent. On manque beaucoup de matériaux de première nécessité, entre guillemets, pour la reconstruction. Quand je dis de premier matériau, c'est de tôle, c'est de clous, c'est de tout l'outillage de base, hein. Pour ce qui est de la reconstruction, alors là, je parle des foyers. Évidemment, pour ce qui est des infrastructures, on en a pour des années. On a encore une quarantaine d'établissements scolaires qui sont abîmés et qui ne peuvent pas faire cours comme il le faisait habituellement, hein. Donc on a des doubles vacations au niveau des classes, c'est-à-dire qu'il y a une classe qui est à école le matin et l'autre classe qui est à école l'après-midi dans le même local. On a même des classes qui ont lieu sous tente pendant la journée. Et puis là, vu l'état des dégâts, ça va durer un certain temps avant que tout soit remis en place, parce que comme toute l'île a été touchée et que les artisans eux-mêmes ont été touchés, voilà, il y a une tension sur le marché, si on peut parler purement économiquement, qui est énorme. Et donc, c'est pas demain la veille que tout ça sera remis en place.
Voilà, c'est par cette interview réalisée par Olivier Bonnel que s'achève ce journal. Très bonne soirée à toutes et à tous.